Swing Time 2019. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. Swing Time préparé et présenté aujourd'hui par Alain Charbonnier. Qu'on ne présente plus. C'est présenté, mais on ne présente plus Alain.
Si,
il tient l'antenne. Bon, alors, bonjour Alain.
Bonjour Martine et bonjour à tous les auditeurs.
Et bonjour à Dominique qui est là en expert.
Bonjour voilà, Martine Dominique et bonjour arrivé. Alain, bonjour tout le monde.
Bonjour Dominique.
Alors aujourd'hui le thème.
Eh bien, ça s'intitule en jazz, il faut savoir jouer des hanches.
Et on fait la liaison.
Voilà, on fait la liaison. A-N-C-H-E-S.
Ça change tout.
Voilà.
Au dernier concert du Hot Club, on en a vu des hanches.
Et alors, comme on va faire un premier chapitre, c'est-à-dire qu'on en fera d'autres plus tard, on ne sait pas quand encore, mais on va consacrer ce premier chapitre au saxophone ténor, comme le concert du 14 janvier. Alors, on va démarrer, et je vais démarrer en rappelant l'invention d'Adolphe Sax en 1840, qui était un Belge. Et il a introduit ce saxophone, qui est un nouvel instrument donc au milieu du 19e siècle, pour les fanfares militaires. Elle va rester dans les fanfares militaires, mais en musique classique, ça n'a pas été tellement utilisé, le saxophone ténor, à part Hector Berlioz, qui l'a un peu utilisé, et je dirais qu'il en a plus parlé qu'il l'a utilisé. Mais dans les fanfares, ça, on en a trouvé. Et c'est surtout revenu en France par les Samizdat, par les orchestres de musiciens noirs américains à partir de 1917. Donc cet instrument belge avait un peu traversé l'Atlantique. Il est revenu à l'occasion, si j'ose dire, de la guerre de 14-18, donc du retour des Américains en 1917. Je dis du retour parce qu'ils sont venus aider les Français. Les Français les avaient aidés pour l'indépendance américaine. Mais là aussi, je m'égare un peu sur l'histoire.
Ça, c'est l'histoire.
Bon, ça, c'est un petit défaut que j'ai d'habitude. Donc, on va revenir au jazz. Et cet instrument va être utilisé dans la musique populaire, dans la danse notamment, ce qui explique qu'il est apparu assez vite dans le jazz et qu'il va devenir le symbole du jazz, plus encore que la trompette. D'ailleurs, le symbole de Swing FM, c'est un saxophone. Il a le ton, mais c'est un saxophone.
C'est vrai.
Le mot swing, c'est un petit saxophone.
Sur fond vert.
Sur fond vert, parce qu'on a de l'espoir. Et le rôle du saxophone va se développer dans les années 20. Et le premier grand saxophoniste ténor, Dominique, tu es d'accord avec moi, c'est Coleman Hawkins.
C'est le premier, c'est le plus grand.
C'est le premier et c'est le plus grand, évidemment. Et c'était, lui, on peut dire, le père du saxophone. Et alors, on va donc consacrer toute l'émission au saxophone ténor. Et comme le dernier concert qu'on a entendu à Limoges, c'était quatre saxophonistes, c'était Ténor Battle, eh bien, on va en profiter aujourd'hui pour se mettre dans les oreilles eh bien, les maîtres de l'instrument, donc les prédécesseurs des quatre gars qu'on a vus début janvier. On va commencer par la référence absolue que j'ai citée déjà, c'est-à-dire Coleman Hawkins, qui est renommé pour sa capacité à phraser avec beaucoup de lyrisme, à développer de belles enjolivures. Il n'est pas si maître dans l'art de la balade, comme va le prouver un magnifique morceau. Magnifique, c'est mon avis, mais ça va être partagé. Je pense que Dominique le partagera avec moi. C'est Imagination, c'est un enregistrement Keynote, New York, le 17 février 1944. Mm-hmm. quasiment pas mieux. C'est beau, ça. Dominique, il est en pleine extase.
Ouais. Non, mais c'était sa grande période, il faut le dire. Les années 40, il a été exceptionnel, Coleman Hawkins.
Tout est bon à ce moment-là chez Hawkins. Et alors, son quartet était constitué, non pas de Hartetto, mais de Teddy Wilson. À la contrebasse, c'était Israel Crosby. Et à la batterie, Cozy Cole. Donc, c'était aussi des tout bons, les gars qui l'accompagnaient. Alors, en matière de jazz, on oppose toujours Hawkins, c'est le faucon, à Lester Young, le président. Mais Lester a une sonorité presque sans vibrato. Il a un timbre un petit peu évanescent, on va dire. Il atténue la différence entre les temps faibles et les temps forts, ce qui est assez rare en jazz, ce qui n'est pas le cas d'Hawkins, évidemment. Donc, il a un style reconnaissable dès la première mesure, je dirais même dès la première note. Et de l'orchestre de Count Basie, avec lequel on l'a beaucoup écouté, où il a fait une grande partie de sa carrière, à la fin de sa vie et de sa carrière, évidemment, Lester a toujours pratiqué cette manière de souffler, donc on le reconnaît toujours. Et on va pouvoir en juger avec cette interprétation rare d'un titre qui lui est connu, puisqu'il s'agit de One O'Clock Jump, mais c'est enregistré à Los Angeles le 1er novembre 1955. Ça déménageait, ça. Oui. Ça
déménageait. Ça déménageait, ah. Ouais, je confirme.
Ça vous a assommé.
On était sous le, voilà, on oui, était oui, sous oui. Le
Alors, à côté de Lester Young, dont je trouve, d'ailleurs, il a encore réduit son vibrato à la fin de sa carrière, il y a encore moins de vibrato, il était entouré d'Oscar Peterson au piano, qui est dans un style assez bayésien, qui n'est pas le style habituel d'Oscar Peterson. À la trompette, un bon trompettiste de l'orchestre Count Basie, c'était Harry Sweets Edison, qui était très en verve. Et on avait deux fameux rythmiciens, Buddy Rich à la batterie et Ray Brown à la contrebasse. C'était le morceau avec Lester Young. Je ne peux pas passer sous silence l'autre grand saxophoniste ténor de l'orchestre Count Basie, qui est son voisin de pupitre, c'est le superbe Herschel Evans. Très très bon ténor, beaucoup moins connu que les deux précédents, mais alors auteur, je trouve. Je préférerais même plutôt, ça c'est mon goût personnel, Herschel Evans à Lester Young. On va écouter Herschel Evans dans une interprétation qui est très connue, mais par contre dans une version qui est rare, qui a été faite pour la radio CBS. Alors on fait toujours ça, hein, il faut des interprétations connues dans des versions rares, hein, parce que sinon on va dire qu'on ne cherche pas. Hein, et on cherche ici, on cherche, hein, et on trouve, évidemment. Eh bien, on va entendre Herschel Evans, qui est confronté à Lester Young, parce qu'ils sont côte à côte, et c'est Lester qu'on entend solo au début, et à la fin, et entre les deux, ces deux solos de Lester, on va entendre Herschel Evans. Et comme tout le monde a repéré Lester Young maintenant, le ténor sans trop de vibrato, on va très bien entendre Lester et surtout Herschel Evans dans un titre connu qui est John's Idea, un enregistrement pour la radio CBS du 3 novembre 1937.
And here's Count Basie's idea of the song titled John's Idea.
Cette idée de Conway intitulée « L'idée de Jean », John Heidegger, permettait de mettre en valeur les saxophonistes ténors, dont Herschel Evans et Lester Young. On en avait deux pour le prix d'un cette fois-ci. On avait d'autres très bons solistes. Il y avait le Kant lui-même, évidemment, au piano. Bobby Moore, qui est à la trompette, avec une section rythmique, la seule et unique section rythmique, « The All-American Rhythm Section », celle qui est constituée de Freddie Green à la guitare, de Walter Page à la basse, de Joe Jones à la batterie. Et qui est le pianiste, Martine, avec Conway? Qu'est-ce qu'il joue du piano? Conway?
C'était Conway, bien sûr.
Excuse-moi, ouais. Martine.
Oui, j'étais de regarder, de qui parle-t-il, si ce n'est de Conway?
Du seul, de Bill Bailey, de William Conway. De lui, je parlais, effectivement. Alors, on a de bons musiciens. Alors, j'espère que tous ces bons musiciens vont plaire à quelqu'un qui nous a écrit il n'y a pas longtemps, qui nous a écrit de Boston, tout de même. Oh. Et c'est Kenneth Lane. Il a dit qu'il écoutait Swing FM, il trouvait ça très bien. Il nous a même proposé des titres et des musiciens. Donc on va lui dédier l'émission. Hein. Hi, Kenneth. Hein. Ça, c'est It's for You. This broadcast is for you.
Hein. Especially.
Especially. And also for the world. All the world, all évidemment. The world. Donc c'est pour Kenneth et c'est pour tout le monde. On va continuer avec nos saxophonistes ténors. Un qui est moins connu aujourd'hui, car la carrière a été abrégée par un accident mortel de voiture. Il s'agit de Chu Berry, mais c'est un des tout meilleurs aussi. Il a joué dans de grandes formations comme celle de Fletcher Anderson, de Conway d'ailleurs, on l'a passé ici, et de Cab Calloway, évidemment, surtout avec Cab Calloway, on le connaît beaucoup avec Cab Calloway. Il a joué avec beaucoup d'autres jazzmen de tout premier rang, comme Teddy Wilson, Lionel Hampton, et j'ai choisi aujourd'hui une interprétation gravée sous son nom. L'orchestre s'intitulait « Chu Berry and his Stompy Stevedores », donc ça va swinguer si c'est stompy comme musique. Et c'est le très célèbre « Limehouse Blues » enregistré à New York le 23 mars 1937.
Thank you.
Eh ben, on a profité de sacrés musiciens, mais il fallait qu'ils soient bons parce que, oui, la vitesse d'exécution par Tchouberi, wow, c'était bon. Je ne sais pas si c'est lui qui conduit la voiture, mais s'il conduisait aussi vite qu'il jouait du ténor, il a pris des risques, le garçon, hélas. Alors, on avait Cozy Cole à la batterie, on avait Buster Bailey à la clarinette, un excellent trompettiste qui joue magnifiquement bien, qui est Oran Otlitz Page, au trombone reconnaissable à son style George Matthews. Tous ces gens étaient issus de l'orchestre de Fletcher Anderson. Mais as-tu remarqué que ce n'était pas tout à fait le style de Fletcher Anderson ?
C'était celui d'Horace.
C'était son frère Horace Anderson. Merci,
Martine.
On ne nous l'a fait pas. Martine est très, très à l'écoute des pianistes. Depuis que je la piège sur les pianistes. Tu as raison, Martine.
Écoute.
Bravo, Martine. Horace Anderson au piano, c'est Martine qui vous le dit. On va rester avec un autre saxophoniste ténor majeur. Forcément, j'ai choisi les meilleurs. Quelqu'un qu'on a souvent comparé à Coleman Hawkins, qui avait d'ailleurs un point commun avec Hawkins et Lester Young, c'est qu'ils jouaient avec deux instruments en général. Ils avaient dans la bouche, ils avaient un ténor. Dominique me regarde bizarrement.
Oui.
Et sur la tête, ils avaient un chapeau. Ils jouaient souvent avec un chapeau sur la tête tous les trois. Voilà, il leur fallait deux instruments pour s'exprimer. Mais ils s'exprimaient beaucoup au ténor tout de même.
Plus qu'au chapeau.
Plus qu'au chapeau. Mais le chapeau était toujours... Ils avaient un beau petit bitos, des fois un peu de biais, des fois pas de biais, mais avec une jolie position du bitos sur la tête et une jolie position du ténor dans la bouche, évidemment. Donc je reviens à Ben Webster, puisque c'est lui que j'évoque. Il a joué... avec un autre big band bien connu qui est celui de Duke Ellington, mais on peut le trouver dans plein d'autres contextes, et on va le trouver dans un autre contexte, dans un standard, un classique des standards, si j'ose dire, des années 50. Il s'agit de Danny Boy, enregistré à New York le 21 mai 1953.
Mm-hmm.
Dominique, tu rappelles à la réalité Martine, parce que là, elle est tombée en pamoison.
Oui, là, il va falloir la réveiller un peu.
C'est chaque fois le même effet sur moi, hein, Dani.
Bon, alors on va dédier le morceau à Martine, qui va se remettre de ses émotions. Reviens avec nous, Martine. Eh bien, on va... Alors, tout le monde peut reconnaître au moins des grands ténors, parce qu'entre Hawkins, qu'on a entendu tout à l'heure, Lester Young, Shoemery... Ben Webster,
Don Byas.
Don Byas, on ne l'a pas encore entendu.
Non, on parlait de ceux que,
qu'on a entendus. Donc tout le monde va les reconnaître parce qu'on a bien écouté ces morceaux. Ils ont chacun leur style. Même dans la balade, Ben Webster, ce n'est pas Coleman Hawkins. Et on avait un pianiste qui accompagnait Ben Webster. Alors, comme la semaine dernière, Dominique nous a présenté un guitariste canadien, j'ai dit il n'y a pas de raison. Moi aussi, je connais des musiciens canadiens, moins inconnus évidemment, mais Oscar Peterson, un noir canadien, il y en a tellement peu. Qu'on le met en avant celui-là. On va écouter un autre grand saxophoniste de l'orchestre de Duke Ellington, c'est bien sûr Paul Gonsalves. Mais évidemment, comme à Swing Time et à Swing FM, on surprend les gens. On va écouter Paul Gonsalves, non pas dans l'orchestre de Duke Ellington, mais dans l'orchestre de Count Basie. Ben voilà, dans l'orchestre de Count Basie. Ça s'intitule, ben c'est un classique de Count Basie, donc on ne peut pas se tromper, c'est Swinging the Blues, enregistré à New York le 20 mai 1947. Mais c'est bien Paul Gonsalves au ténor. Magnifique. avec la section rythmique, celle de Basie, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, donc je ne redonne pas les musiciens. On les a retenus et on avait un très délicat et très joli solo de trompette par l'excellent Hemet Berry. Alors le morceau suivant, on va le dédier forcément à Dominique puisqu'il réclamait Don Byas. Donc on va écouter Don Byas au ténor. C'est un autre très grand saxophoniste qui lui aussi a joué chez Count Basie, qui s'est produit à Limoges. Il a même été à la pêche avec Jean-Marie Mince. Hein. Bon, c'est un peu hors sujet, mais... c'est-à-dire au passage, parce qu'il aimait la pêche à la ligne, pas Jean-Marie Mince, mais Don Byas. Donc Jean-Marie Mince l'accompagnait dans ses promenades limousines à Liotique. Mais je vais revenir à Don Byas, saxophoniste ténor, qui est toi-même le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Il a lui aussi un style, un phrasé tout à fait reconnaissable, très délicat dans le phrasé. Nous allons l'entendre dans un morceau qui s'intitule « Little White Lies » et c'est enregistré à New York le 27 juillet 1945. Don Byas, parce qu'il jouait en obligato derrière un très bon trompettiste, un autre ami de Limoges, un autre pote de Jean-Marie, c'était Buck Clayton, hein, qui jouait le solo de trompette. Don Byas prenait le pont et deux chorus entrecoupés par un solo de piano de Johnny Guarnieri, donc un bon pianiste aussi, à la batterie, qui est venu à Limoges aussi, à la batterie Don Zilbes et à la contrebasse Eddie Safransky. Et c'était une formation, donc black and white, il y avait des blancs, il y avait des noirs. Ou il y avait des noirs, il y avait des blancs, c'est comme on veut. On va rester avec les grands saxophones ténors, qui vont avoir avec l'art de la ballade, entre autres, et avec le Limousin, puisque celui-ci a été le dernier président d'honneur du Hot Club de Limoges, et on a deviné qu'il s'agissait d'Illinois Jacquet. Et je vous le propose dans un thème classique du saxophone ténor, puisqu'il s'agit de Harlem Nocturne, qui a été enregistré à Los Angeles le 16 octobre 1956. Mmh. Sacré jour de balade, Illinois Jacket, hein, aussi. Alors, aux côtés d'Illinois, il y avait Roy Eldridge à la trompette, bien reconnaissable, Jimmy Jones au piano, Herb Ellis à la guitare, Ray Brown à la contrebasse et Chuck Jones à la batterie. Donc, que des bons musiciens. On va maintenant écouter un autre ancien de l'orchestre Count Basie, c'est l'homme au mâchoire d'acier, c'est-à-dire Eddie Lockjaw Davis, donc il serrait fort l'embouchure, l'anche et le petit bec de son saxophone ténor. On va l'écouter lui aussi dans une balade. Il est accompagné par la très bonne organiste Shirley Scott, qu'on n'entend pas très souvent. Et ils vont nous interpréter un autre standard, un peu du même genre que précédemment, puisqu'il s'agit de Don't Blame Me. Et c'est un disque enregistré à New York le 19 décembre 1957.
Thank you.
Mais tu vois, Martine, tu me demandais où était Count Basie. Alors, oui. D'après le livret qui est inclus dans le boîtier, d'après Tom Lord, mais Tom Lord, il recopie les livrets, on nous annonce Count Basie au piano.
C'est étonnant.
Oui, c'est étonnant. Alors, il joue discrètement, il est très, très discret, là. Alors, je pense qu'il fume une petite cigarette, il boit un petit whisky, ou il est en admiration devant Shirley Scott, je ne sais pas. Mais à mon avis, il est présent dans le studio, mais il n'a pas touché pas là, ouais. Une note, ni une blanche, ni une noire. Je parle des notes, évidemment. Par contre, à la contrebasse, c'était Georges Duvivier. On va rester avec les grands saxo-ténors et comme il ne manque pas, on va en trouver quelques-uns de plus et des bons, évidemment. J'en prends un chez Count Basie à nouveau. On est en 1945. Il est à côté de Buddy Tate. Alors, Buddy Tate, on l'écoutera un petit peu à part. Hein. J'essaierai de faire une émission à part. À la demande de Dominique, avant qu'il me reproche de ne pas passer Buddy Tate. On lui fera une émission. Donc, Buddy Tate est à côté de celui que je vous présente. Il a de la chance, celui que je vous présente, puis qui s'appelle Lucky. C'est Lucky Thompson, et qui va prendre le solo de saxophone ténor du titre suivant, On the Hop Beat. Et c'est enregistré sur un disque Vidix, les disques de la victoire. On est à New York. On est le 11 janvier 1945. Donc là, on participe à l'effort de guerre. On va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner. En janvier 1945, on va gagner, je le dis. Et on écoute Lucky Thompson, On the Hop Beat. Thank you. côté de Lucky Thompson, il y avait un trompettiste bien mis en valeur, c'était Al Killian. Je suppose qu'il était mis en valeur parce que c'est lui le compositeur du morceau et l'arrangeur est Don Redman. Et puis on avait Ted Donnelly au trombone et tout le monde a reconnu Martin en tête,
Count Basie
au piano. Bravo, c'est bien. On va rester avec un big band et c'est celui de Jimmy Lunceford. Et c'est un garçon qui a brillé dans l'orchestre Lunceford puisqu'il s'agit de Joe Thomas. Joe Thomas, le trompettiste, pas du tout. Le saxophone ténor, parce qu'il y a un trompettiste qui s'appelle Joe Thomas.
Oui.
Mais là, c'est bien le Joe Thomas, saxophoniste ténor, et qui va jouer un très, très, très swingant, Annie Laurie, qui est un titre ultra connu, évidemment, enregistré à New York, le 5 novembre 1937. Dominique, est-ce que ce titre te plaît ?
C'est mon Jimmy Lunceford préféré.
C'est bien ce qui me semblait. Je me l'étais laissé dire. Soliste Dominique au trombone,
Tremmy Young,
ah, oui. À la trompette stratosphérique,
Paul Wester,
voilà. L'arrangeur c'était Cy Oliver,
bien sûr.
Le grand Cy Oliver, on l'a présenté. J'ai été obligé de le présenter quand j'étais en période d'essai ici dans ces stations. Je me souviens, on m'avait fait faire une émission sur Cy Oliver, l'arrangeur. Je me souviens très bien.
Ah oui,
oui, oui, j'ai fait 100 et haut pour faire cette émission. Alors, j'ai souffert. Hein.
C'était le test.
Oh là là, c'était le test. Et à la batterie, Jimmy Crawford, évidemment. Et donc, Swing FM a passé un chef-d'œuvre de plus, mais tout le temps.
Parce que des bons disques.
Eh bien, le saxophoniste suivant, il a beaucoup moins enregistré, il est moins connu. Il n'a même pas un nom des États-Unis, finalement. Ça, je viens de m'en rendre compte. Et pourtant, il est tout bon. Ça, il s'appelle Ike Quebec. Ça fait américain, mais plus au nord, hein, à Québec. Mais c'est bien noir hein, et américain. Et j'ai choisi un titre enregistré lors d'une excellente session avec le pianiste Sammy Price, qui a enregistré que des bons disques, Sammy Price. Il mérite une émission, Sammy Price, je crois qu'on y pense. Le titre, That Kicks, et c'est enregistré à New York le 1er mars 1944. On était avec Sammy Price, avec son orchestre qui s'intitulait The Bluesitions.
À propos de Ike Webeck, Alain.
Dis-nous.
Pierre Christophe, le frère de Claude Alain, a fait trois émissions assez remarquables sur ce saxo-ténor et elles sont sur le site de Swing FM. Alors ceux qui sont intéressés par Ike Webeck pourront toujours aller sur notre site
on
et trouver...
On peut les télécharger, voilà.
On peut les télécharger.
Il ne faut pas les télécharger dans les émissions, il faut télécharger un peu plus bas dans les spécialités. On prend la petite souris, on la chatouille un peu et puis on fait descendre sur la petite colonne de l'ascenseur. Et hop, Ike Webeck, trois fois. C'est dit, c'est noté. Là, par contre, à côté d'Ike Webeck, il y avait Bill Coleman, un autre pote de Jean-Marie, hein, à la trompette, évidemment. Il y avait Gene Eldridge à l'alto, plus Oscar Petitfort à la basse et Harold Doc West à la batterie. Comme ça, c'est complet. On va écouter un dernier saxophoniste ténor noir américain. Il s'agit de Bud Johnson. Il était influencé, lui, alors autant par Coleman Hawkins que par Lester Young. C'est une sorte de synthèse, si j'ose dire, des deux. Il a pris un peu plus au premier à Hawks qu'au Prez, me semble-t-il. On va pouvoir s'en rendre compte avec ce titre qui rappelle plus Hawks que Lester. Il s'agit de Body and Soul, morceau de Hawkins par excellence, enregistré à New York aux environs, comme c'est très très ancien, de 1971-1972, c'est le siècle dernier. Je sais même pas si on était nés, nous tous. Hein.
Tout juste.
Tout juste. Mmh. De Lester Young était ténue là ici tout de même. Hein. C'était bien la lignée Hawkins. Et la formation s'appelait JPJ Quartet, en français JPJ. Et pourquoi JPJ Quartet? Parce que les accompagnateurs étaient Dill Jones au piano, Bill Pemberton à la basse, Oliver Johnson à la batterie. Donc il y a deux J plus un troisième J avec Bud Johnson, et un P pour Bill Pemberton. Voilà l'explication du titre de l'orchestre, de la formation. Alors on a écouté beaucoup de musiciens américains, noirs américains. On va tout de même aller voir la parité française, enfin pas tout à fait la parité. On va chercher quelques bons saxophonistes ténors français, il y en a plein. On en a vu récemment le 14 janvier, évidemment. On en a vu en décembre avec Michel Paz, donc on a plein de bons saxophonistes ténors. Mais le premier d'entre eux, si j'ose dire leur père à tous, c'était Guy Lafitte, qu'on va écouter dans un enregistrement Black and Blue. Guy est entouré et soutenu par un beau trio formé de Hank Jones au piano, George Duvivier à la basse et J.C. Heard à la batterie. Il va nous jouer une belle mélodie de Charles Trenet qu'il affectionnait. La mélodie est Charles Trenet. Alors, en français dans le texte, Martine, Bonsoir, jolie madame. Enregistré à Paris le 29 mars 1978. Thank you.
c'était joli. Hein,
c'était joli, ouais, n'est-ce pas
bien. Bonsoir, jolie madame.
Voilà. Eh bien, jolie madame, on va terminer aussi l'émission. Hein. Et on va choisir un dernier saxophoniste ténor dans mon panthéon personnel. J'ai pris un autre français, un grand saxophoniste ténor, qui joue plus, mais à qui on va faire un petit amical salut, puisqu'il s'agit de Gérard Benigni. Et vous allez entendre, ça va swinguer ferme, c'est sur le blues, avec un rythme shuffle. Alors là, Dominique va sortir de sa chaise. Le principal responsable d'ailleurs du swing, il y a Gérard, bien sûr, au ténor, mais il y a Sam Woodyard à la batterie. Ça s'intitule tout simplement « Sam Woodyard is back in town ». Donc Sam Woodyard revient en ville, c'est un disque black and blue évidemment, enregistré à Genève. Mais il se presse pour rentrer de Genève, hein. Il ne va pas à la Suisse, hein. Il y va à la Noire américaine. On est le 1er mars 1975 et on en prend pour plus de 7 minutes. Il a désannoncé lui-même, Gérard. Alors, on a reconnu tout de même Milt Buckner à son style en block chords et puis à ses grognements tout de même. Il y avait les deux. Et puis, on avait Jimmy Wood à la contrebasse qui a fait un long solo de contrebasse. On va terminer avec ce musicien l'évocation des saxophones ténors. Il en manque. On aurait pu en choisir d'autres morceaux. Mais c'est le crève-cœur habituel. Voilà, on en choisit.
Bien sûr, mais tu feras d'autres émissions sur les saxos ténors.
Si, si, je suis repris, voilà. Oui, oui. Et même d'autres émissions sur d'autres saxos, parce que j'ai dit le premier chapitre, donc il faudra que je complète. J'en ai promis une sur Buddy Tate dans l'année, je ne m'engage pas trop, mais elle va être faite. Et puis, saxo alto, baryton, tout ça.
Soprano.
Soprano. Il y en a des sopranistes, oh, il me semble que j'en connais un, au moins un. Même deux, parce qu'il y en a un qui joue sur l'instrument du premier. Voilà, Sidney Béchette et Olivier Franck. Bon, on va trouver avec Marc Laferrière. Oui, oui, on va trouver d'autres saxophonistes.
Et même Johnny Hodges.
Et même Johnny Hodges. Donc, aucun problème, on va faire une autre émission. Et puis, je trouve qu'on est gâtés avec Swing FM et avec l'autre club, parce qu'au début du mois... Le 14 janvier, on a écouté quatre saxophonistes
formidable.
Pour le prix d'un seul concert. Au mois de décembre, on a écouté, c'était le 5 décembre, un saxophoniste qui dirigeait un big band. Donc tout de même, on a une bonne vingtaine de saxophonistes dans les oreilles. Et il nous en manque. Mais on en a pas mal tout de même. Donc j'espère que ça fait plaisir à tout le monde. J'espère qu'au petit café qui est en bas de la rue Foury...
Alors,
Place Saint-Pierre, ça oui. s'appelle La Tabatière.
Oui.
J'espère qu'ils vont apprécier parce qu'ils écoutent Swig FM. Oui, oui, j'ai pris mon petit café l'autre jour. On leur dit bonjour. Et pourquoi est-ce qu'ils écoutent Swig FM? Parce que la musique est belle, il n'y a pas trop de paroles, sauf quand je parle, moi, mais bon, je suis l'exception qui confirme la règle. Et il n'y a pas de publicité. Sauf quand je fais la publicité pour le café La Tabatière.
Donc.
Mais là, ils râlent pas. On a fini.
Swing Time 2019. Et cette émission avait été préparée et présentée par Alain Charbonnier, qu'on retrouve dans ben, la semaine prochaine. Peut-être dit-il. Merci beaucoup, on a passé un excellent moment. On sait qu'on va en passer d'autres.
C'est gentil.
Ce qu'on annonce. Voilà. À bientôt donc.
À bientôt et au revoir à tout le monde.